Je vais me taire pour laisser place à vos questions.
Juste que vous nous parliez un peu plus de vous.
Ah ! Un peu plus de moi, je ne sais pas si c'est la chose la plus intéressante. Alors, pour ancrer ça dans la question du conflit israélo-palestinien, j'avais 15 ans quand le pape Jean-Paul II est venu en France. Je suis allée l'écouter au Parc des Princes. J'ai applaudi à tout rompre pendant 2 heures. Sauf que j'ai rien entendu. Du coup, avec mon argent de poche, je me suis acheté le discours du pape et je l'ai lu. Et je me suis dit, oh misère, pourquoi j'ai applaudi? J'étais pas du tout prête à applaudir à ce que le pape demandait aux jeunes, à la vérité. Mais ça a entraîné chez moi, justement, du coup, une démarche spirituelle. Est-ce que je crois, parce que chez papa et maman, c'est pas négociable, tant qu'on vit sous leur toit, on doit aller à la messe tous les jours? J'exagère. Tous les dimanches, c'est déjà pas mal. Où est-ce que je crois? Parce que véritablement, je crois. Et j'ai commencé à me poser la question de la foi et je suis allée dans le centre de documentation de mon lycée en prenant un livre sur le judaïsme. Et je suis tombée amoureuse du judaïsme. Ah, c'est beau le judaïsme, c'est passionnant le judaïsme. J'ai trouvé ça très beau, notamment dans le judaïsme, l'esprit de communauté, l'esprit de fête, le sens des fêtes et surtout la richesse chez les juifs de la transmission de la foi. Ah, si on transmettait la foi parmi nos enfants chrétiens comme les juifs arrivent à transmettre la foi parmi leurs gamins. Voilà, je suis tombée amoureuse du peuple juif. 18 ans, je passe mon bac. Mais on ne veut pas dire que je me suis foulée à le réviser. Si bien que je dis à mes parents, si je loupe mon bac, je rentre dans le Tsahal, l'armée israélienne. Oh misère! Parce qu'en étant tombée amoureuse du peuple juif, j'étais tombée amoureuse de l'État d'Israël. Bon, j'ai eu mon bac. Je ne suis pas rentrée dans l'armée israélienne. Ma quête de foi continue. Continue à tel point que j'ai 19 ans, quand en lisant un psaume, je décide d'entrer au couvent. Le psaume disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors j'ai dit, voici je viens. Et j'ai dit au Seigneur, chiche, je viens. Et j'ai choisi comme couvent, un couvent de Monial, donc un couvent de Monial cloîtré, les bénédictines. Les bénédictines, c'est les 3-8. 8 heures de prière, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Les sœurs me demandent de patienter un peu parce que j'ai que 19 ans, il faut que je mette un terme un peu pas mal à mes études, donc je suis obligée de rester un peu. Mais, finalement, j'ai l'autorisation d'entrer à 22 ans. Alors, à 21 ans, je vais faire le voyage de ma vie avant d'entrer en clôture dans le centre France, derrière des grands murs de 3 mètres de haut. Je viens en Terre Sainte, bien sûr, le pays de Jésus, avant d'entrer au couvent. Et puis, je tombe amoureuse de la Terre Sainte dès que j'ai les pieds sur le tarmac de l'aéroport. Vous savez, dans les senteurs de kérosène, je sens que je suis arrivée à la maison. Quelle idée! Alors, je me dirige, je fais ma retraite itinérante de 15 jours, la Bible sur le terrain, et puis après, je séjourne 15 jours dans un monastère de bénédictines au sommet du Mont des Oliviers. Et au bout de 15 jours passés chez ces sœurs-là, j'ai décidé que l'année d'après, j'entre toujours au couvent, mais j'entre au couvent chez les bénédictines à Jérusalem. J'ai donc 22 ans, je suis à 2 mois d'avoir 23 ans quand j'entre chez les bénédictines sur le mont des Oliviers. Et 15 jours après mon entrée, c'est le début de la première intifada, le premier soulèvement palestinien. Je suis arrivée avec un cœur grand comme ça pour le Seigneur, amoureuse du peuple juif et de l'État d'Israël, et je découvre patatras qu'il y a un autre peuple. Il est palestinien et il n'apprécie pas particulièrement la sauce à laquelle il est mangé. Je vais vivre ici toute la première intifada. Je vais vivre ici la guerre du Golfe. Je vais vivre ici les accords d'Oslo. Et puis vous savez, l'Église, dans sa grande sagesse, prévoit la vie religieuse à l'essai, à la différence du mariage. Il y a des CDD de vie religieuse avant de prendre le CDI de la vie religieuse, la profession perpétuelle solennelle, pour toujours. Je vais donc faire toutes les étapes de CDD de vie religieuse, 6 ans, avant de renoncer 6 mois avant de faire profession perpétuelle pour ne pas faire vœu d'obéissance. Pauvreté, il y a beaucoup de pauvres qui sont beaucoup plus pauvres que la moindre religieux et religieuse dans le monde. Chasteté, c'est un exercice physique. Il n'est pas drôle tous les jours. Parfois même il fait mal, mais on n'en meurt pas. Mais obéissance, oh Seigneur Jésus, l'obéissance. Alors comme je voulais absolument être sûre d'obéir toute ma vie, véritablement, mais que je savais pertinemment que j'en serais pas capable, je me suis trouvée à ne pas pouvoir prononcer un vœu dont je savais que je ne le respecterais pas. J'ai donc quitté. Je suis devenue journaliste et tous les ans, je revenais à Jérusalem pendant mes vacances, tellement Jérusalem me manquait. Et ça a duré 10 ans. Et finalement, je suis revenue en 2005 exercer mon métier au service de Terre Sainte Magazine, qui est une publication faite ici, qui appartient aux franciscains de Terre Sainte. Je l'ai découvert en 2004, ce Terre Sainte Magazine, à la faveur de mes vacances. Ça ne ressemblait pas à ça du tout, c'était beaucoup plus ringard, pour tout vous dire. Et puis, il y avait une photo du rédacteur en chef. J'ai regardé la photo, c'est toujours le cas. Mais à l'époque, j'ai regardé la photo, il avait l'air d'avoir 70 ans, bien tapé. Je me suis dit, mathématiquement, il y a une place à prendre. Alors, j'ai envoyé une lettre de candidature spontanée et on m'a demandé, effectivement, de venir ici pour moderniser ce magazine dans sa forme et dans son contenu. C'est comme ça que je suis arrivée. J'ai la passion de ce pays. Mais ce que je suis capable de vous dire aujourd'hui sur cette histoire de pont, sur cette nécessité dont je suis persuadée d'apprendre à aimer les deux peuples, c'est pas venu tout seul. C'est venu en grande partie grâce à mon métier qui m'a fait, d'abord, avec la première intifada, je vous l'ai dit, j'étais amoureuse de l'État d'Israël et du peuple juif, et je découvre un autre peuple. Et comme je suis ici, et que pendant la première intifada à Jérusalem, c'est extrêmement violent, je veux savoir pourquoi c'est violent. Et du coup, qu'est-ce que souffre ce peuple palestinien? Et pourquoi n'apprécie-t-il pas ce que lui propose l'État d'Israël? Donc il va falloir chercher beaucoup. Je vais passer pendant un temps d'un amour exclusif pour l'État d'Israël à la découverte du peuple palestinien. Passant à cette découverte, je vais me dire, mais comment l'État d'Israël, ce peuple élu que le Seigneur a choisi, comment ne vit-il pas si bien son élection qu'il soit un peuple exemplaire parmi les nations? Il devrait avoir tous les outils pour vivre le fait d'avoir un État de façon différente. Il est le peuple choisi, il a pour lui la Torah, il a pour lui l'élection, il a pour lui le choix de l'amour, il a pour lui l'accomplissement des prophètes. Comment se fait-il que ce peuple qui, par ailleurs, au nom de cette élection, a souffert de l'Holocauste, comment peut-il faire souffrir à son tour? Quelle question déchirante! Quelle question déchirante. Et pendant des années, je vais être déchirée. C'est mon amour pour l'État d'Israël qui va être déchiré et en grande partie en pièces. Mais je découvre aussi que les Palestiniens ne sont pas des oies blanches, ne sont pas tous absolument des saints. Eux aussi, ils font des choses qui ne sont pas très claires. Là aussi, il y a du terrorisme. Des gens qui meurent dans des attentats aveugles, qui tuent non pas des militaires israéliens, ce qui serait un état de guerre, mais qui tuent des civils. Et figurez-vous que j'ai failli être parmi ceux-là en 2002, puisque à une heure d'intervalle, j'ai échappé à un attentat dans une pizzeria. J'étais allée chercher un quart de pizza dans cette pizzeria. Une heure après, elle explose, 15 morts, dont 8 enfants. Ça pose question aussi, du coup, sur cet amour naissant des Palestiniens et de leur cause. Où est la justice? Où est la justesse d'appréciation des deux? Il a fallu que le Seigneur me lamine le cœur pour que je trouve un certain équilibre. Aujourd'hui, je sais où je suis. Je suis du côté palestinien. Parce que c'est là que sont les chrétiens, mes frères dans la foi. Parce que c'est de ce côté-là que je vis. Parce que c'est au service de cette chrétienté aussi qu'est le magazine. Parce que ce sont les pauvres d'ici, pas simplement pauvres en argent, ils le sont aussi parfois, et parfois certains sont plus riches que vous et moi réunis. Mais c'est surtout ceux aujourd'hui à qui il est nié quelque chose. Sauf qu'avec le temps, j'ai appris à aimer le peuple palestinien et à vivre en son sein, mais à retrouver tout mon amour, et pour le peuple juif, et pour l'État d'Israël. Alors, c'est une gymnastique du cœur. C'est une gymnastique du cœur et parfois c'est crucifiant. Mais c'est à cette condition-là, je crois, que du coup le magazine peut donner une image de ce pays fondamentalement en l'aimant, en aimant les deux peuples, en respectant les différents points de vue. Du moins quand ils sont respectables. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement on a un gouvernement de malades, et je continue de le penser. Mais ce gouvernement ne résume pas à lui seul toute la vie de 7 millions de juifs israéliens. Hein, on ne peut pas réduire un peuple à son gouvernement. Eh bien, ici c'est pareil. Je suis contre la politique de ce gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais je ne peux pas réduire et l'État d'Israël et le peuple juif à la politique d'un homme qui est corrompu et malade. Super intelligent, mais qui mène une politique qui, par ailleurs, mène l'État d'Israël à sa perte pour des raisons que je pourrais vous expliquer. Alors voilà mon parcours. Ce parcours de quelqu'un qui arrivait... qui n'était pas forcément destiné à vivre dans un pays étranger en guerre, et qui essaye de le vivre eh bien, avec une dimension spirituelle, en essayant, à la suite du Christ, de regarder ce pays avec les yeux aimants du Christ Jésus, et pas simplement du reste de ce pays, mais toute la région sur laquelle sont les franciscains, puisque le magazine lui-même est franciscain. Alors, le plan Trump, qui a été donné le 31 janvier, propose aux Palestiniens de annexer la vallée du Jourdain. Vous voyez, tout le long du Jourdain, qui est le lieu frontière entre la Jordanie et la Terre Sainte, on va dire pour faire simple. C'est là que sont bien évidemment les terres arables. De culture. En échange, on leur donne quoi ? Des bouts de désert au Negev. Cherchez l'erreur. Les territoires donnés aux Palestiniens n'ont pas de continuité territoriale. Le plan de paix propose de construire des tunnels ou des ponts pour rejoindre des poches de population les unes aux autres. Mais sous condition. Il faut que les Palestiniens soient gentils, qu'ils acceptent leur sort, que plus un ne fasse un attentat. Autant vous dire qu'il va passer un petit peu d'eau sous les ponts avant que ça arrive. On leur donne un état, à condition qu'il n'ait pas d'espace aérien, à condition qu'il soit tout entier encerclé de frontières avec un unique état, l'État d'Israël. Il n'y aurait plus de lien avec la Jordanie voisine. On leur donne un État à condition qu'il soit démilitarisé. On leur donne un État à condition qu'il n'ait pas le contrôle de l'eau, y compris les nappes phréatiques qui est dans leur État. Qu'est-ce qu'on leur donne ? Les Palestiniens, avant 1947, vivaient sur 85% de ce qu'on appelle la Palestine historique. Avec les accords d'Oslo, ils ont finalement accepté de créer un État sur 22% de la Palestine historique, et le plan Trump ne leur en donne plus que 11%. On ne leur propose pas un État, on leur propose des réserves. Et ils n'en veulent pas. Et on les comprend. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fondés à réclamer un État palestinien digne de ce nom, parce que c'est inscrit dans le droit international depuis 1947, quand il y a eu la partition de la Palestine entre un territoire destiné à devenir l'État hébreu, juif, et un État qui devenait devenir un État arabe, plus tard appelé palestinien. Parce que c'est écrit dans le droit, il demande l'application du droit. Est-ce que c'est scandaleux que ce peuple demande l'application du droit ? Il a loupé plein d'occasions dans le passé ? Oui. Il a fait beaucoup d'erreurs dans le passé ? Oui. Est-ce que pour autant, il faut le priver de ses droits fondamentaux à disposer de lui-même. Alors évidemment, sur le terrain aujourd'hui, et peut-être votre guide vous l'aura-t-il fait remarquer quand vous avez voyagé, il y a dans les territoires palestiniens un certain nombre de colonies qui morcellent ce territoire. Quand en 2005, il avait fallu sortir 20 000 colons de Gaza, ça a été la limite de la guerre civile en Israël, entre Israël, enfin entre le gouvernement qui voulait faire sortir ses colons, les colons en question et ceux qui les soutenaient. C'était difficile pour 20 000, imaginez pour un demi-million. Aujourd'hui, c'est une évidence. Sur le terrain, la solution à deux États n'est plus possible. Dans l'état actuel, ça n'est plus possible. Pour autant, est-ce que les Palestiniens doivent renoncer ? Est-ce que les Alsaciens et la France ont renoncé à garder l'Alsace et la Lorraine ? À un moment donné, elle n'est-il plus française ? Est-ce qu'il faut renoncer ? Renoncer, c'est ce que leur demandent les Américains. Et en définitive, et manifestement, puisqu'aujourd'hui c'était les élections en Israël, la majorité des Israéliens eux-mêmes demandent en définitive aux Palestiniens d'abdiquer. Est-ce que c'est une victoire pour l'État d'Israël ? Eh bien non. C'est une victoire en apparence, mais ça pourrait bien valoir à Israël de nouveaux soucis. Et j'allais presque dire deux nouveaux soucis. Si ce plan Trump devait s'appliquer, c'est le prélude, et on l'a entendu dans les commentaires aux élections ce matin, c'est le prélude à une annexion totale du territoire, donc il y aurait même plus, il y aurait des poches de population palestinienne, mais tout deviendrait l'État d'Israël. Rien ne dit que dans ces poches des populations palestiniennes, on donne à ses habitants la nationalité israélienne. Mais je vous l'ai dit, on est à parité de population. 7 millions de juifs et 7 millions d'arabes. Comment un État qui a 7 millions de personnes à qui il ne donnerait pas, enfin 5 millions de personnes à qui il ne donnerait pas la nationalité, peut-il encore revendiquer le fait d'être une démocratie ? C'est quoi une population d'un État de gens qui sont nés là, mais qui n'ont pas de statut de citoyen ? C'est au minimum un État de ségrégation. Et aujourd'hui, à la radio, les quelques gauchistes qui sont intervenus à la radio israélienne a dit « C'est fini, Israël se prépare à devenir un État d'apartheid. » Où un peuple, le peuple juif, domine par la force sur un autre à l'intérieur d'un seul même État. Ça, c'est le premier dommage qui guette l'État d'Israël. Le second dommage, Israël se veut un État juif pour les juifs. Mais comment on fait quand il y a parité de population et que 50% de la population n'est pas juive ? Ça rime à quoi d'avoir un État juif pour les juifs quand il y a 50% et bientôt un peu plus de la population qui n'est pas juive ? C'est le sionisme, c'est le projet sioniste lui-même qui se casse la figure. Donc, dans tous les cas, ça n'a pas de bon sens, comme diraient les Canadiens. Les Palestiniens n'ont rien à perdre, ils n'ont rien obtenu. Mais les Israéliens, en définitive, ont beaucoup plus à perdre, et peut-être en partie leur âme. Et ça, c'est un vrai drame, pour eux, mais aussi pour nous. Parce que si la situation devait dégénérer ici, elle aura des conséquences, d'une façon ou d'une autre, chez nous. Moi, je trouve ça d'une tristesse infinie. Mais nous n'avons pas le droit de désespérer. Le Seigneur a choisi cette terre. Il l'a choisie pour son bonheur. Figurez-vous qu'en ce moment, chez les rabbins ultra-orthodoxes, là, ouais, ceux qui ont des beaux chapeaux, les trucs et les machins, là, il y a une fièvre messianique. Ils disent que le Messie peut arriver à tout moment. Mais Maranatha, viens Seigneur Jésus, reviens. Nous, on doit être prêts à l'accueillir. Donc reviens, même pas peur, au moins il mettrait tout le monde d'accord si c'est la fin des temps. On sera tranquille. Mais politiquement, où est-ce qu'on va ? Alors là, c'est la grande inconnue. Mais on pourrait bien encore avoir à passer, et les Palestiniens, surtout les premiers, pendant quelques années encore à passer par des sacrés trous de souris qui vont râper et Dieu sait pour quelles conséquences. Oui, madame.
Le peuple juif, les ceux qui ont le pouvoir actuel, dans ces gens-là, est-ce qu'il n'y en a pas qui se rendent un peu compte de ce qui se passe, avec les Palestiniens ?
Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais jusqu'où s'en rendent-ils compte ? Vous savez, ici, par exemple, là, pour les élections à l'Assemblée nationale israélienne qui se sont tenues hier, il y a 120 députés, 17 partis se présentaient. C'est vous dire l'éclatement des partis. Et en fait, aujourd'hui, toute la société israélienne a tendance à se droitiser. Quand on parle de droitisation ici, ce n'est pas un critère économique comme chez nous en France, entre ceux qui seraient libéraux ou ultra-libéraux et ceux qui seraient socialistes. C'est un critère, plus on est à droite, moins on veut faire de concessions pour trouver la paix avec les Arabes. Plus on est à gauche, plus on est prêt à faire des concessions pour trouver la paix avec les Arabes. Or, manifestement, et le résultat de la Knesset le prouve, il n'y a plus grand monde à gauche en Israël. Parce qu'il y a beaucoup de gauchistes qui ont quitté l'État d'Israël. Parce qu'ils trouvent déjà, eux, des Israéliens juifs, qui ont quitté l'État, parce qu'ils trouvent déjà, eux, qu'il est devenu beaucoup trop à droite Ils n'ont plus envie de vivre, et beaucoup trop religieux par ailleurs, ils n'ont plus trop envie de vivre dans ce pays.
Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas un problème d'unité entre le peuple arabe lui-même ?
Alors, les Palestiniens, oui. Alors, grâce à Dieu, il n'y a pas de panarabisme. Il n'y a pas d'unité dans le monde arabe. Il n'y en a jamais eu. En fait, ça a été un mirage de Kamal Nasser dans les années 50 en Égypte, de nous faire croire qu'il y avait une unité panarabe. Depuis très longtemps, les Libanais ont le sentiment d'être Libanais, les Syriens celui d'être Syriens, les Palestiniens d'être Palestiniens, les Jordaniens d'être Jordaniens, les Égyptiens d'être Égyptiens, et ainsi de suite. En plus, ils ont vraiment des histoires différentes. Donc oui, aujourd'hui, la grande différence par rapport à ces années dernières, c'est qu'il n'y a quasi plus personne pour soutenir la cause palestinienne, chacun ayant des soucis à régler dans son propre pays, et ils sont nombreux. Donc les Palestiniens sont laissés à eux-mêmes, ça c'est sûr. C'est là, c'est un des grands changements. Mais à la fois, vu ce que le soutien des autres nations arabes leur a apporté ces dernières années, est-ce que c'est vraiment pire qu'avant ? On peut en douter. Vous savez, j'ai dit quelque chose tout à l'heure sur l'exemplarité attendue du peuple juif. En fait, on ne peut pas reprocher au peuple juif de ne pas être exemplaire. D'abord, tous ne sont pas croyants en Dieu. Et de la façon dont ils croient, ils ont eux-mêmes une perception de ce qu'est l'exemplarité qui est un petit peu différente. Ce que j'ai constaté du peuple juif par rapport à la souffrance qu'ils imposent, c'est qu'ils en sont en grande partie complètement inconscients. Ils sont inconscients de la souffrance qu'ils imposent. Et l'exemple que je donnerai, c'est celui d'une mère chatte. Vous avez déjà vu une mère chatte défendre ses chatons? Approchez-vous d'un chaton d'une mère chatte. Eh bien, elle va développer une puissance pour défendre son chaton que votre chat bien-aimé, qui est généralement tellement tendre et affectueux, va vous arracher la moitié du visage. Pour défendre son chaton, pour défendre la vie. Aujourd'hui, les Israéliens, dans le traumatisme, et les Juifs, dans le traumatisme qu'ils sont, de tant de siècles de persécution, qu'elles viennent des chrétiens ou pas, je vous rappelle que quand ils ont été déportés par Nabucodonosor, les chrétiens n'y étaient pour rien. Les Juifs, dans le traumatisme de ce qu'ils ont vécu au long des siècles, se défendent comme une mère chat peut défendre ses petits, en tapant tous azimuts alentour. Mais elle ne se rend pas compte des conséquences de cette force décuplée qui est la sienne quand elle s'occupe de la vie de ses chatons, de la vie des Juifs d'ici et du monde entier. Il y a pour moi non pas un problème d'exemplarité du peuple juif, mais de sa souffrance ancestrale qui le rend aveugle, en définitive, au fait que pour qu'il n'y ait plus jamais ça, comme ils ont raison de le dire, les Juifs, eh bien, il y a autre chose. Et cette autre chose n'est pas très beau à voir de souffrance que ça occasionne. Mais, encore une fois, pour moi, et je connais beaucoup d'Israéliens, un certain nombre sont de mes amis, je vois bien qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, je termine sur un mot. J'ai apporté 30 exemplaires du magazine dont j'anime la rédaction. Découvrez ce magazine, vous verrez qu'il parle de choses extrêmement variées. Là, il y a 60 pages à lire en 2 mois. Ça va, normalement, c'est à la portée de pas mal de gens. N'hésitez pas à vous abonner, parce que quand vous vous abonnez, mécaniquement, vous aidez les chrétiens de ce pays. Donc, plus on a d'abonnés, plus on a de l'aide pour venir en soutien des chrétiens d'ici qui en ont bien besoin, parce que leur situation n'est pas facile tous les jours. Alors, c'est imprimé en France. C'est imprimé en France, donc ça part de France, mais c'est entièrement rédigé à Jérusalem.
Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.